Bonjour et bienvenue dans C'est ta santé, le podcast de la radio Queer as You, dédié à la santé des personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore trop méconnu, l'intersexuation. C'est un mot qui intrigue, qui peut parfois déranger et qui est souvent mal compris. Mais derrière ce mot se cachent des réalités humaines, corporelles et sociales qui méritent toute notre attention et tout notre respect. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intersexuation ? L'intersexuation est le fait de naître avec des caractéristiques sexuelles, qu'elles soient génétiques, hormonales ou anatomiques, qui ne correspondent pas strictement aux définitions habituelles du féminin ou du masculin. Dit plus simplement, certaines personnes naissent avec des organes génitaux, des hormones ou des chromosomes qui ne rentrent pas dans les cases homme ou femme, telles qu'on les imagine habituellement dans le monde réel ou dans les manuels de biologie humaine. Et ces variations sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Les estimations varient, mais on parle d'environ une personne sur 100 qui présente une variation du développement sexuel, que ces variations soient visibles extérieurement ou parfaitement invisibles. Autrement dit, l'intersexuation fait partie de la diversité naturelle du vivant humain. Et maintenant, d'où vient cette diversité ? Comme nous l'avons déjà vu, le sexe biologique se construit avant la naissance sous les effets conjugués de trois éléments. Tout d'abord, des chromosomes, et notamment les deux chromosomes sexuels. Ensuite, des hormones, et notamment les hormones sexuelles, testostérone et œstrogène. Et enfin, du développement des organes pendant la période embryonnaire et fœtale. Mais ce processus n'est pas binaire. Il existe une infinité de combinaisons possibles. Par exemple, certaines personnes possèdent non pas deux chromosomes sexuels nommés XX pour une femme ou XY pour un homme, mais elles ont des combinaisons autres, telles que trois chromosomes sexuels au lieu de deux, comme dans le syndrome de Klinefelter, avec une combinaison XXY, ou bien au contraire, elles n'ont qu'un seul chromosome X, on dit X0, comme dans le syndrome de Turner. D'autres ont dans leur corps des cellules avec des chromosomes sexuels dits en mosaïque, c'est-à-dire qu'on trouve dans les tissus de ces personnes des cellules avec deux chromosomes X, donc des cellules génétiquement féminines, tandis que d'autres cellules ont un génotype XY, donc des cellules génétiquement masculines, voire des cellules sexuellement indifférenciées, c'est-à-dire avec un seul chromosome sexuel, donc X et 0. D'autres personnes ont à la fois des testicules et des ovaires. D'autres ont des organes génitaux qui ne correspondent pas entièrement aux standards médicaux, avec toute une palette de situations qui évoluent entre des organes génitaux typiquement mâles et des organes génitaux typiquement femelles. D'autres encore produisent ou reçoivent les hormones sexuelles différemment. C'est-à-dire que ces hormones sont produites en quantité différente de la moyenne ou bien produites à un moment inhabituel du développement. Enfin, certaines personnes ont des sensibilités très différentes que les autres aux effets des hormones sexuelles. Et dans certains cas, elles peuvent être totalement insensibles à l'action de ces hormones. Toutes ces situations sont regroupées sous le terme générique d'intersexuation. Ce ne sont pas des maladies, mais ce sont des variations naturelles du développement humain. Et maintenant, que se passe-t-il à la naissance quand la société veut trancher ? Lorsqu'un enfant vient au monde, il doit être déclaré à l'état civil. C'est une étape essentielle. Elle permet à l'enfant d'exister juridiquement, d'obtenir un nom, une identité, une protection et des droits. Mais la loi impose aussi qu'on inscrive un sexe, masculin ou féminin, Et là, pour un enfant intersexe, la réalité biologique entre en tension avec la règle sociale. Le corps ne correspond pas toujours à ces deux cases toutes faites. Pourtant, dans les 5 jours qui suivent la naissance, un choix doit être fait. Les parents, souvent guidés par les médecins, sont alors amenés à désigner un sexe, parfois avant même d'avoir bien compris la situation qui est souvent compliquée. Ce choix, ensuite, peut influencer tout le parcours de vie et même entraîner des interventions médicales précoces destinées à faire conformer le corps à la mention choisie. C'est pourquoi de nombreuses associations intersexes demandent aujourd'hui plus de temps, plus d'écoute et la possibilité de différer ou d'ouvrir la mention du sexe à la naissance, parce qu'avant d'être un garçon ou une fille, chaque enfant est d'abord une personne. L'intention était souvent d'aider la personne à s'intégrer, mais beaucoup de personnes intersexes témoignent aujourd'hui de la violence et des souffrances que ces interventions ont provoquées. Douleurs physiques, perte de sensibilité, honte du corps, silence imposé. Aujourd'hui, de nombreuses associations comme l'Organisation Intersexe Internationale militent pour le droit à l'intégrité corporelle, le respect du consentement et la reconnaissance pleine et entière des personnes intersexes. Maintenant, nous allons parler de l'évolution des droits. La situation législative et réglementaire évolue lentement. En 2021, l'ONU et le Conseil de l'Europe ont rappelé que les opérations non consenties sur les enfants intersexes doivent cesser. Certains pays, comme l'Allemagne, Malte ou le Portugal, ont interdit ces pratiques ou reconnu une mention de « sexe indéterminé » ou « divers » pour l'état civil. En France, le sujet avance doucement grâce à la mobilisation des associations et à la visibilité grandissante des personnes intersexes dans les médias. Mais il reste encore beaucoup à faire, dans les écoles, dans le domaine de la santé, du droit et de la culture. Être intersexe, c'est aussi une expérience humaine. L'intersexuation, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est aussi une expérience intime, identitaire, parfois politique. Certaines personnes intersexes se reconnaissent comme femmes, d'autres comme hommes, d'autres encore comme non-binaires ou fluides. Le vécu intersexe n'impose pas une identité de genre. Il s'agit d'un fait corporel qui peut être vécu très différemment selon le contexte, l'éducation, la société et le soutien reçu. Et ce qu'on entend le plus souvent dans les témoignages, c'est ce besoin simple mais fondamental, à savoir être reconnu pour ce qu'on est, sans qu'on touche au corps et sans qu'on nie la diversité des personnes. Et maintenant, voyons comment mieux soutenir et inclure les personnes intersexes. Il faut tout d'abord écouter et croire leurs récits. Il faut savoir utiliser leurs propres mots. On peut parler d'intersexe plutôt que d'anomalie sexuelle ou de trouble du développement sexuel. Il faut enfin refuser toute pathologisation inutile. Et surtout, il faut créer ou développer des espaces d'accueil et de santé respectueux où la diversité des corps est considérée comme normale. Les personnes intersexes rappellent à la société une vérité fondamentale. Il n'existe pas deux sexes, mais une infinité de façons d'être humain. En résumé, l'intersexuation est une variation naturelle du corps humain qui est présente depuis toujours, dans tous les pays, toutes les sociétés humaines et toutes les cultures. C'est une réalité biologique, mais aussi sociale, juridique et politique, car elle interroge notre manière de classer, de nommer et de respecter les différences. En parler, c'est rompre le silence, reconnaître des vécus longtemps invisibles et ouvrir la porte à une vision plus inclusive du corps et du genre. Et souvenez-vous, la diversité des corps est une richesse et non pas une exception. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble la santé, les identités et les parcours dans toute leur diversité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queer As You pour un prochain épisode de C'est ta santé.